Alors, je vais vous lire dans Éphésiens 2, 11 à 22. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juif de naissance. Les juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous, les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs. Mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a assuré la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit.
Je vous propose de prier avec Michel. Oui, Seigneur Jésus, nous aimerions te remettre Michel. Merci, Seigneur, pour les paroles que tu as pour nous ce matin. Et Seigneur, que tu le guides, que tu lui donnes ta vision. Seigneur, que merci pour toute sa préparation aussi pour nous. Et Seigneur, nous les aimerions te le remettre entre tes mains. Et Seigneur, qu'au travers de lui, tu puisses parler à chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons entendre une parole de toi. Et Seigneur, nous voulons avoir le cœur ouvert pour entendre une parole de toi au travers de Michel. Alors bénis-le, Seigneur. Amen. Amen. Et merci pour sa présence parmi nous.
Alors, c'est toujours une joie, enfin c'est une joie pour la deuxième fois que je viens ici du centre-ville de Genève, hein, de l'église de la Pélisserie, comme ça a été dit. Et c'est donc toujours une superbe occasion pour les chrétiens d'entendre un autre pasteur qui fait partie de la même famille d'église. Et j'aimerais vous dire encore que je suis très heureux d'être parmi vous et que j'espère que chacun d'entre nous, nous allons être bénis. Nous l'avons été déjà et que nous allons continuer de l'être au travers de sa parole. Est-ce que vous êtes déjà monté au sommet de la tour Eiffel? Oui, le sommet. Ouais, enfin, pas là où ils font les réparages techniques pour régler les antennes de France 2, hein, je sais pas. Mais voilà. Et est-ce que vous avez déjà été tout en bas de la tour Eiffel et regardé vers le haut? Alors, si vous avez fait ça, moi je l'ai fait il y a des années en arrière, eh ben j'étais impressionné par toute cette structure qui montait dans le ciel comme cela. Eh bien, la Bible nous parle également d'une construction. Mais ce n'est pas une construction de métal ou d'acier, c'est une construction qui est faite par Dieu, pas par les hommes. Et dans cet édifice, Dieu a employé des matériaux très spécifiques. Il a employé vous et moi. Ce qui est formidable, c'est que Dieu, il a réussi à faire cette construction, c'est l'Église, en employant des gens qui sont très différents et que beaucoup de choses opposaient. C'est ce que nous avons lu et ça va être le sujet du message ce matin, entre autres. Nous allons voir justement que par rapport à notre texte, il nous décrit qu'est-ce que l'être humain sans Christ ? Ensuite, nous allons voir comment les êtres humains sont assemblés en Jésus-Christ, sont unis en lui. Et enfin, quels sont quelques privilèges de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ? Dans le monde et dans la société, il est courant d'entendre qu'il faut être très tolérant, qu'il faut accueillir chacun comme il est. Eh bien, ce texte nous montre que le chrétien, il est vraiment le seul qui peut le faire, parce qu'il a en lui l'amour reçu de Dieu. Et cet amour reçu de Dieu, eh bien, lui permet d'aimer ceux qui sont différents de lui. Alors, je voudrais d'abord introduire deux, trois choses par rapport au texte que nous avons lu. Donc, il s'agit d'une lettre de Paul, écrite il y a longtemps en arrière. Et il a écrit quand il était en prison. Il s'adressait donc à cette église d'Éphèse, qui était une nouvelle église. Et cette ville d'Éphèse, elle comptait environ 300 à 400 000 personnes. Peut-être ça vous rappelle un lieu très proche de chez nous, oui. Dans les environs. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui provenaient d'endroits différents dans cette ville. Il y avait également un grand temple qui était consacré, qui était dédié à une déesse qui s'appelle Diane. Et les habitants de la ville aimaient faire du commerce et aimaient beaucoup aussi, je pense, avoir toutes sortes de dieux et de religions dans cette ville. Dans la lettre que nous avons lue, dans le passage, Paul, il explique en fait aux chrétiens qu'ils n'ont pas à être envieux d'avoir un très grand bâtiment ou un très beau bâtiment, comme c'était le cas de ceux qui adoraient cette déesse Diane. Parce que les chrétiens à qui Paul écrivait, ils faisaient partie d'un bâtiment qui est bien meilleur. Ils faisaient partie de cet édifice qui est construit par le Seigneur. Alors dans cette église, justement, il y avait particulièrement, dans notre passage, deux personnes, deux types de personnes qui pouvaient être opposées et que beaucoup de choses opposaient. C'est les juifs et les non-juifs, ou comme on disait autrefois, les juifs et les païens, ceux qui ne croient pas dans le Dieu de la Bible. Les juifs avaient toutes sortes de règles qu'ils pratiquaient et auxquelles ils obéissaient. Et en fait, si quelqu'un voulait devenir juif, il devait se soumettre à toutes ces règles. Alors prenons d'abord, qu'est-ce que l'homme avant de rencontrer Jésus-Christ ? Paul, il démarre en disant « Souvenez-vous de ce que vous étiez autrefois, rappelez-vous. » Et il le dit également à nous aujourd'hui, de nous rappeler de ce que nous étions avant que Jésus-Christ soit notre Sauveur et notre Seigneur, avant qu'il soit le Maître de notre vie. Alors dans notre texte, Paul dit que ces gens étaient méprisés par ceux qui se soumettaient aux règles juives. Il montre qu'en fait, les nouveaux rapports des croyants ne doivent plus être marqués par le mépris ou par la jalousie, mais plutôt par l'amour. Et nous avons une description très courte de ce qu'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il est sans Christ. Ça signifie en fait qu'il n'a pas en lui l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit qui vient quand on accepte Jésus-Christ. Ça signifie que ces personnes n'avaient pas reçu autrefois personnellement Jésus dans leur vie. Elles n'avaient pas fait une démarche envers le Seigneur. Elles ne croyaient pas que Jésus était mort et ressuscité réellement pour eux. Elle ne croyait pas qu'elle pouvait obtenir le pardon à cause de la mort de Jésus. Être sans Christ, c'est être dans les ténèbres, c'est ne pas savoir où l'on va dans la vie. C'est être dirigé uniquement par ses propres envies, ses propres instincts, et c'est au fond un état très triste qui est difficile à vivre. Même si on a l'impression, quand on est sans Christ autrefois, que tout va bien parfois. Mais la parole nous dit ailleurs que celui qui est sans Christ, eh bien, c'est la chose suivante. Elle dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie déjà présente, la vie spirituelle, la vraie vie, ainsi que la vie future, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ceux qui sont sans Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. Paul précise aussi, dans ma traduction, qu'ils n'avaient pas le droit de citer en Israël. Ils n'avaient pas le droit, en quelque sorte, de participer à la vie du pays d'Israël. Ils n'étaient pas intégrés à ce peuple. Ils en étaient exclus. Ils étaient également étrangers aux alliances de la promesse. Ils ne bénéficiaient pas, en fait, de toutes les faveurs de Dieu, de tous les contrats que Dieu avait passés avec ceux qui s'étaient tournés vers lui. Ils n'avaient donc non plus pas l'espérance d'avoir un sauveur, un messie, quelqu'un qui allait les sauver et les racheter, qui allait leur donner la vie spirituelle. L'homme sans Christ, c'est encore le cas aujourd'hui, cherche à combler sa vie avec toutes sortes de choses. Ça peut être un très bon travail, il va chercher à s'accomplir dans son travail, il va chercher à amasser le plus de richesses matérielles, ou alors il va se réfugier dans une religion qui lui apporte beaucoup de satisfaction, où il a l'impression qu'il se rapproche de Dieu, où il a l'impression qu'il obtient la paix intérieure. Alors je pense qu'on connaît toutes sortes de personnes autour de nous qui sont dans cette situation-là, n'est-ce pas? Eh bien, ce texte nous encourage justement à leur partager notre espérance, à leur partager qu'il y a une espérance de réconciliation en Jésus-Christ. Si nous sommes timides pour le faire ou si nous n'osons pas le faire, c'est peut-être que nous n'avons pas compris ce qui arrivera à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il sera séparé de Dieu pour toujours. Il sera séparé de celui qui l'a créé. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui peut rapprocher les hommes de Dieu. Et le texte le dit, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. D'autres traductions disent, c'est par le sang de Christ. Paul va ensuite aborder dans notre texte les sujets de la paix et de la réconciliation, ainsi que l'unité qui existe entre les croyants, et c'est mon prochain point. Comment Jésus-Christ a réconcilié les hommes entre eux? Il est dit dans ce texte qu'il est notre paix. Alors non seulement Jésus a promis de nous donner sa paix dans les évangiles, mais là il est dit qu'il est notre paix. Dans Ésaïe, nous lisons cette parole, « Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. » La paix que Jésus nous a promis de donner, eh bien, elle est réelle pour chacun de ses enfants. Il y a bien des religions et bien des pensées qui promettent la paix aux gens. Mais ici, il est dit que Jésus est notre paix. Il est physiquement notre paix, il est spirituellement notre paix. Et en le recevant en nous, nous avons l'assurance que nous avons la paix avec Dieu et également, comme nous le verrons, la paix entre nous. Alors, il y a des livres qui nous enseignent sur comment être mieux, comment décompresser, comment ne pas stresser, comment faire face à tout ce qu'il y a dans la vie. Il y a toutes sortes de techniques qui sont données, techniques de respiration ou autres. Mais c'est une autre chose que de connaître celui qui est la source de la paix, que de vivre chaque jour en relation avec cette personne. Jésus est notre paix, ça ne se limite pas simplement à nous donner sa paix. Au verset 14, nous lisons que Jésus-Christ a fait des deux peuples, des juifs et des non-juifs, un seul en détruisant le mur de séparation, le mur de séparation qui était la haine ou l'inimitié. Pourquoi est-ce que Paul parle des juifs et des non-juifs? En fait, il utilise cette expression, ces deux expressions pour rassembler toute l'humanité. Il y avait ceux qui connaissaient Dieu au travers des lois juives et il y avait ceux qui ne le connaissaient pas comme cela. Et dans ces deux catégories de personnes, eh bien, il y avait tout qui les opposait. Ils n'adoraient pas les mêmes dieux, le même Dieu, et ils avaient des rituels différents. Leur conception de l'univers était différente. Et aujourd'hui, nous savons que quelqu'un qui lit la Bible et qui croit en Dieu, il aura vraiment une conception des choses qui est parfois très différente des gens autour de lui. Mais ici, nous voyons que Dieu a réconcilié ces personnes qui étaient opposées. Dieu a enlevé par la croix de Jésus-Christ toutes les barrières qui existaient entre les juifs et les non-juifs. Et ainsi, c'est uniquement en croyant en Jésus-Christ que les hommes peuvent également se réconcilier réellement les uns avec les autres. Notre foi en Jésus-Christ se limite souvent à ce que Dieu a fait pour moi. Il est mon salut, il m'a sauvé moi, il est ma paix. Mais ici, nous voyons que la parole nous enseigne que c'est beaucoup plus large que cela. Il y a réellement une puissance pour nous réconcilier avec ceux qui sont différents de nous, avec ceux qui ont une culture différente, avec ceux qui ont un arrière-plan social différent. Cela n'est possible qu'en étant réconcilié d'abord avec Dieu. J'ai parlé de ce mur qui était entre les juifs et les non-juifs. Ça fait référence au temple de Jérusalem, où il y avait un mur qui séparait justement les juifs et les non-juifs. Et les non-juifs ne pouvaient pas aller au-delà de ce mur. Eh bien, Jésus-Christ a abattu symboliquement ce mur. Ce qui nous est souligné dans ce texte, en fait, c'est que plus notre amour pour Dieu sera grand, plus nous apprendrons à comprendre l'amour de Dieu, eh bien plus Dieu nous donnera de l'amour, d'abord pour nos frères et sœurs dans la foi, mais également pour notre prochain. Et je crois que de méditer là-dessus, c'est ça qui va nous aider à grandir, pour également ensuite essayer d'atteindre nos prochains. L'amour vertical, en quelque sorte, que Dieu nous donne, va être une puissance pour aimer nos frères et sœurs, comme je l'ai dit, et notre prochain sur le niveau horizontal. C'est une réalité qu'il nous faut vraiment croire et comprendre. Et le texte précise que tout cela est dû à la mort de Christ, que Jésus, à la croix, a pris le péché et a été puni à la place du chrétien. Et il a également annulé ou rendu inactif les barrières qui existent entre les juifs et les non-juifs, les fameux commandements, les fameuses lois. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, Dieu réconcilie les hommes par l'Évangile, par la prédication de l'Évangile. Et cet Évangile, qui veut dire une bonne nouvelle, est quelque chose que nous devons comprendre très profondément. C'est quelque chose qui doit nous habiter. Nous devons comprendre que Dieu nous a fait grâce et que nous sommes appelés à faire grâce aux autres également, à pardonner, à aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui sont différents de nous. Par l'Évangile, Dieu a en quelque sorte réconcilié des choses qui étaient contraires. Et j'aimerais donner une illustration pour cela. Je ne suis pas un spécialiste de cela, mais on peut penser à un voilier. On a le lac pas loin, hein, et peut-être certains d'entre vous font de la voile, ils pourraient mieux expliquer la chose que moi. Mais en fait, on sait qu'un voilier, il avance forcément grâce à... au vent, merci. Et aux voiles, le vent va dans les voiles, mais pas de vent, pas d'avance. Hein. Sauf s'il y a un petit moteur, mais ça c'est de la triche. Hein. Mais en quelque sorte, il faut que le vent vienne d'une certaine direction. Si le vent vient de côté ou de derrière, c'est très bien, parce que le voilier pourra aller vers sa destination. Mais si le vent vient de face, eh bien le voilier, pour arriver à destination, devra naviguer en zigzag. Parce qu'il ne peut pas faire face au vent, il ne peut pas avancer contre le vent, mais il va avancer en zigzag pour arriver au lieu qu'il avait choisi. Eh bien, en quelque sorte, Dieu a réuni des choses qui étaient opposées en zigzag. Et il a fait un seul corps de cette chose, de nous donc. Il a créé l'Église. Dans les versets 18 à 22, nous voyons ce qu'étaient
nous voyons le pendant de ce qu'étaient les Éphésiens, et également nous, avant que nous soyons chrétiens, avant que nous devenions chrétiens. La parole nous dit que nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus considérés comme quelque chose qui n'est pas aimable par Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous voit parfaitement justes et parfaitement saints. Nous sommes devenus des concitoyens des saints ou des croyants donc. Nous avons donc une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté, et c'est quelque chose qui nous est donné, et c'est quelque chose que nous avons à creuser, à comprendre. Quelle est notre identité ? Eh bien, si le monde nous dit que nous ne valons rien ou que nous sommes mauvais, eh bien, en Christ, nous savons que nous avons une valeur certaine, une valeur qui est montrée parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Si nous le croyons pour nous, il faut également le croire pour nos frères et sœurs. Dans notre monde, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés, qui sont perdus, qui n'ont pas de repères dans leur vie. Eh bien, la foi en Jésus-Christ est quelque chose qui amène un repère certain, un sur-repère. C'est même le seul qui est le plus important et qui vaille la peine. Mais pour cela, il faut qu'ils entendent la bonne nouvelle. Et qui est-ce que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle ? Eh bien, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui avons l'Esprit de Dieu et qui sommes nés de nouveau, nous avons la possibilité de parler de cette bonne nouvelle. Nous voyons aussi qu'il y a une base à tout cela. Il est dit que la base, c'est le fondement des apôtres et de Jésus-Christ et des prophètes. Ce bâtiment que nous sommes, l'Église, ce bâtiment spirituel, il est fondé sur des gens qui ont annoncé la parole autrefois. Et c'est pour cela qu'il est important pour chaque chrétien de méditer et de lire toute la parole de Dieu, de pas seulement se contenter des passages qui nous font du bien ou qu'on connaît vraiment, mais de lire toute la parole de Dieu. Parce que tout cela, c'est le fondement sur lequel nous sommes construits. C'est ce qui est dit au verset 20. Et même si nous ne comprenons pas tout, il y a des choses qui demeurent pas faciles à comprendre dans la Bible, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de chercher et de comprendre. Cela, la parole le dit également, eh bien, ce n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, c'est certain. Mais nous pouvons demander à Dieu qu'il nous donne la compréhension par rapport à sa parole, qui nous aide à comprendre davantage celle-ci, qui nous aide à comprendre notre identité en Jésus-Christ et également ce que nous sommes appelés à faire pour nos prochains. La Bible est comme une boussole pour la vie, une boussole qui nous guide. Est-ce que nous en sommes réellement convaincus ? Est-ce que nous la lisons chaque jour ? Est-ce que quand lorsqu'il y a une grande épreuve, nous demandons à Dieu de nous donner une parole spécifique pour ce temps-là ? Parfois, j'ai dit ou j'ai entendu dire, dans la Bible, ce n'est pas tellement ce que je ne comprends pas qui me pose problème. Il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, je ne comprends pas bien dans la parole. Mais ce n'est pas ça qui me pose problème. C'est plutôt ce que je comprends bien et que je dois mettre en pratique. Et c'est souvent ça qui est le plus difficile, c'est de mettre en pratique la parole. Alors, en conclusion, ce matin, eh bien, j'aimerais laisser quelques questions ouvertes à méditer. Nous avons vu une image de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont loin de Jésus-Christ, ils ne sont pas dans une relation de confiance avec lui, ils sont étrangers, ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Alors est-ce que je choisis d'être quelqu'un qui va aider une autre personne à comprendre un peu plus l'amour de Dieu ? Puis nous avons continué avec le fait que Dieu, par la croix de Jésus, a enlevé toutes les barrières qui existent entre les êtres humains. Il l'a fait pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Alors est-ce que je cherche à vivre de manière à accueillir tous ceux que Dieu met sur ma route? Est-ce que je demande au Seigneur qu'il me remplisse d'amour pour accueillir ceux qui sont différents et qui ont besoin néanmoins d'entendre la parole de Dieu? Enfin, on a vu quelques facettes de ce qu'était ce bâtiment spirituel qu'est l'Église. Nous avons vu qu'il est important de comprendre notre identité en Jésus-Christ et de méditer sur celle-ci. Une dernière question, c'est: est-ce que je considère l'Église locale comme un club, comme une tradition triste et ennuyeuse, ou comme un corps vivant dans lequel j'ai ma place avec mes frères et sœurs? Que le Seigneur nous aide à avoir une vision renouvelée de qui nous sommes en lui et également de qui sont nos frères et sœurs, et qui nous aide à mettre en pratique sa parole. Amen. Seigneur, parfois ça nous semble au-delà de nos forces que de pouvoir nous approcher de quelqu'un et de nous réconcilier avec lui. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as fait pour des personnes qui étaient opposées. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Nous te demandons ton aide et ta force pour faire cela, Seigneur, que nous puissions avoir dans notre vie des occasions de pardonner et de demander pardon, Seigneur. Que nous puissions également mieux comprendre qui nous sommes en toi, Jésus. Tous les privilèges que nous avons de te connaître, et que cela puisse être aussi quelque chose qui nous pousse à parler de toi et à vivre selon tes commandements pour montrer aux autres le chemin vers toi, Seigneur. C'est non pas pour nous sauver que nous faisons cela, Seigneur, mais c'est par reconnaissance, parce que toi, tu nous as aimés. Remplis-nous de ton amour et de ta justice, Seigneur. Amen.